C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. De 1960 à nos jours, la Côte d'Ivoire a connu un important recul de sa couverture forestière qui est passée de 16 millions d'hectares en 1960 à 3 millions d'hectares et demi en 2015. Les causes de ce recul sont connues. L'agriculture extensive, l'exploitation mal maîtrisée des forêts pour satisfaire les besoins de bois d'œuvre et du bois d'énergie et l'insuffisance de la capacité de la puissance publique à faire respecter sur le terrain ces textes censés protéger les forêts. Aujourd'hui, deux forêts classées illustrent parfaitement ce terrible constat. Ce sont les forêts du Cavali et du Guindébé dans la région de Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Libéria. Deux forêts classées, deux problématiques différentes, mais avec le même résultat, déforestation, accaparement des terres, esclavage moderne et parfois même la mort. Quand notre reporter Igor Strauss s'est rendu sur place début novembre, un jeune guéré venait d'être assassiné. Selon un décompte fait par les habitants, c'est le 12e mort dans la forêt du Guindébé. Alors comment en est-on arrivé là? Comment expliquer cette crise entre deux ethnies qui vivaient jusqu'alors dans une parfaite harmonie? Guindébé et Cavali, un cacao au goût amer, c'est un reportage d'Igor Strauss.
Oui, je suis Thierry Fidel. Je suis un riverain de la forêt classée du Guindébé. C'est une forêt qui fait 133 000 hectares. Son infiltration a débuté depuis les années 70 par des paysans baoulés. Et jusqu'en 2010, la forêt était vraiment presque finie. C'est-à-dire qu'il n'y a que du cacao. Aujourd'hui, je vous parle, il n'y a que du cacao dans la forêt classée du Guindébé. Il n'y a même pas une seule relique de forêt dans la forêt classée du Guindébé. Après la crise post-électorale, donc en 2011, donc Salam est arrivé. Salam, c'était un ancien chef de guerre qui a combattu aux côtés des FSCI. Et c'est des gens qui ont été démobilisés. Donc c'est ce Salam-là, quand il est arrivé, il a dit que la forêt classée du Guindébé et la forêt classée du Cavali étaient un butin de guerre. Donc quand il est venu, il a même rançonné un certain nombre de baoulés même qui avaient déjà leur parcelle à qui il a fait payer de l'argent. Et donc, quand il est arrivé, les parcelles qu'il a trouvées, c'était environ 9000 hectares. Il a installé des Burkinabés dedans et ces Burkinabés-là ont fait du cacao. Donc, sur une superficie de 9000 hectares. Et Salam, quand il s'est aussi attaqué à la forêt classée du Cavali. À la différence des Guindébé Cavali, là, ils sont venus essentiellement avec des armes. Ils ont Cavali, ils ont conquis Cavali. Donc, c'est au fort de ça que les gens ont vu, le gouvernement a vu que c'était un danger. Et comme la situation était en train de revenir progressivement au calme, il a été mis aux arrêts parce que les gens l'ont trouvé en possession d'armes de guerre. Et donc Salam a été emprisonné vers fin 2013. Voilà comment le conflit en lui-même a débuté. Quand Salam a été emprisonné, les violences continuaient sur les Burkinabés parce que les Baoulés maintenant voulaient reprendre toutes les parcelles où Salam avait installé des Burkinabés. Donc déjà en 2013, il y avait déjà eu des morts. Et c'est de la prison qu'il a fait, il a reçu les leaders des jeunes guerriers. Donc c'est M. Roger Balia qui a rencontré Salam.
Bonjour M. Roger Balia.
Bonjour monsieur. J'ai rencontré Salam en prison avec deux de mes frères. C'est en prison, il nous a dit, je suis en prison pour 10 ans. Après les 10 ans, j'ai interdiction de séjour de 5 ans sur le territoire ivoirien. Donc, je ne peux pas concevoir que ce que j'ai planté, ceux qui m'ont chassé de là. Et pendant que je suis en train de vous parler, j'ai beaucoup de mes petits qui sont morts en brousse là-bas. Il y a 7 personnes qui sont mortes en 2013, qui ont été tuées par des baoulés. Donc, je ne peux pas être là, en prison, et puis savoir que cette plantation-là est dans la main des baoulés. C'est comme ça qu'on est rentré. Et on a essayé de réunir nos frères et on leur a dit, bon, rentrons en négociation avec les baoulés. Et c'est ce qu'on a proposé aux baoulés et les baoulés ont refusé. Ils ont dit que c'est pour eux. Ils ont tenté même de corrompre certaines personnes parmi nous. On va vous donner 5 millions par personne chaque mois. Et les gens ont dit non. On ne parle pas de 5 millions. On dit on veut les 9000 hectares. Ils ont refusé. Et c'est là qu'il y a eu problème. La première discussion chaude même entre eux et nous, c'est là que ça s'est passé.
Je suis Yayi Octave, cadre de la région du Kabali.
Alors, est-ce qu'il est normal qu'un chef de guerre emprisonné, condamné, puisse décider à qui reviennent ses terres?
Oui, ce n'est pas normal, mais c'est le désordre. Et c'est les effets collatéraux de ce désordre. Parce qu'on est dans un état quand même organisé. Il n'est pas normal qu'une forêt déclarée, forêt classée, soit occupée par une communauté sans que l'État ne réagisse. Où elle est classée, où elle n'est pas classée. Quand on dit une forêt classée, la forêt d'abord c'est la propriété des propriétaires terriens. La forêt est un propriétaire. Et la terre qui est dans le Kavali appartient au Ouai. Donc on ne laisse pas une autre communauté la détruire sans réagir. Donc ce n'est pas normal que ces gens-là aussi, ces Baoulés, ils soient et qu'ils cultivent et que l'État de Côte d'Ivoire regarde, fait, on vend le cacao. La Côte d'Ivoire aussi bénéficie des retombées de ce cacao sans que personne ne soit dérangé, sans que personne ne soit hébété. Ce n'est pas normal. Donc dans ces conditions aussi, Salam Ouedraogo, Yamé Ogo, qui est un chef de guerre, qui occupe sans que personne ne réagisse pendant 3 ans. Ça aussi, ce n'est pas normal. Donc le même désordre continue.
Mais, monsieur Fidel, quelles sont les relations entre les Baoulés et les Guérés dans la vie de tous les jours? Là, je parle du commun des mortels.
Il y a de très bons rapports. En tout cas, il y a une bonne cohabitation entre les deux groupes ethniques. Une très bonne cohabitation. Le problème a survenu juste pour cette histoire de 9000 hectares que les guerriers revendiquent. Au fait, ce n'est pas tous les Baoulés même. Il y a un certain nombre de Baoulés qui ont pris fait et cause pour les autochtones guerriers. Il y en a même qui ont vu leurs maisons incendiées. Il y en a qui ont été battus, des Baoulés qui ont été battus. Ça veut dire qu'au niveau des Baoulés, déjà, il y a une division. Il y en a qui disent, il y en a qui ne sont pas jusqu'au boutistes. Il y en a qui reconnaissent, par exemple, que non, ah, mais au moins les 9000 hectares, là, dans les 133000 hectares, là, en tout cas, cédons ça aux autochtones. Puisque dans les 133000 hectares, les autochtones n'ont rien eu. Donc, il y a un groupe de Baoulés qui s'est levé, qui a dit non, cédons les 9000 hectares aux guerriers. Et ils ont connu toutes sortes d'actions de la part de leurs frères.
C'est pas du vent, c'est l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Mon nom m'appelle Kwadjo Aou Lucie. Bon, les gens, il y avait des jeunes Baoulés qui ont dit mon mari a logé les guerriers. Donc ils sont allés un dimanche matin, ils sont partis, ils m'ont dit de faire sortir mes choses, qu'ils vont casser la maison.
Bon, je suis Kwasi Kwame Fulgence. Ils sont venus dans les deux campements, Akabuko et Kwadjokweko, venus casser tout ce qui était chez nous, voler nos panneaux solaires, télévision, nos cacao stockés.
Ils ont commencé à tirer les fusils. Il y a des fusils, on prend à aller à la chasse et il y a des calas, il y a tout dans leurs mains.
Oui, parce qu'on a hébergé une nuit, on a hébergé la guerre une nuit chez nous, ils ont tout cassé. Nos maisons, tout ce qui était dans le village, les poulets, tout, ils ont tout emporté. Et moi, après m'avoir battu, même si j'ai encore des traces sur le dos, moi, parce qu'ils ont tout pris, tout ce qui était sur moi. Je suis venu à Zanier vide.
Parce que vous, vous êtes Baoulés,
oui.
Mais vous vous entendez bien avec les guerriers, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Parce que quand mon mari est venu ici, ça est, eux, ils travaillent. Donc, on n'a aucun problème avec eux. Là, il dit pourquoi nous on n'a pas problème avec les guerriers aussi. Donc c'est ça, ils sont allés tout détruire. Ils ont tout gâté. On avait des télés, les trucs de bon, ils ont tout gâté. En tout cas, ils ont tout cafouillé. Il n'y a même pas aucun chose qui était resté.
Moi c'est Glace Saint-Fort Amour. Ils ont commencé à menacer, sortez d'ici. Bon, celui qui vient discuter avec toi, c'est en ville ici on discutait, mais en brousse, même si on devait discuter, il y a une manière de venir. Mais ils venaient avec des cris de guerre et des armes. Tout le monde a compris que vraiment, ils étaient venus pour bouffer la guerre. Ils ont commencé à tirer d'abord en l'air. Personne ne voulait replier. Ils ont commencé à tirer maintenant sur les gens. Et c'est comme ça que les jeunes guerriers ont commencé à sortir, puisque déjà on enregistrait pas mal de blessés. Même il y a un jeune, même de Zoro, à qui, vraiment vous allez m'excuser, pendant qu'on les a mis nus, totalement nus, un traitement inhumain, et à qui ils ont tiré les couilles. Il y en a qui ont été blessés juste à présent, qui suivent encore des traitements. Mais après tout ce qui a été fait, personne n'a osé poser plainte. Même si on arrive à la gendarmerie, bon, on ne sent même pas que la chose est prise en considération. Ça reste comme ça, toujours impuni.
Les gendarmes ont dit que non, vu la situation actuelle, vraiment il serait difficile d'aller appréhender quelqu'un là-bas, le faire sortir de la forêt pour le faire venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être dans la forêt coulassée du Gouindébé, c'est comme si tu étais dans un autre état. Parce que personne ne peut aller te chercher là-bas pour venir avec toi. Donc tu peux aujourd'hui là, tu peux commettre un crime et puis aller t'asseoir dans le Gouindébé. Personne n'ira te chercher. Donc tu es libre. Donc la dernière fois, quand le ministre Anne Loto est arrivé, pour calmer les deux parties, début novembre, elle avait entrepris de faire des consultations pour régler le problème de façon définitive. Trouver une solution et qui arrange les baoulés et qui arrange les guéris. Donc, c'est dans l'attente de son retour là, que le président des jeunes libérois, Nguéré, a été fusillé. À chaque fois qu'il y a un accord, il y a un événement qui vient pour remettre l'accord en cause. C'est ce qu'on constate. Et donc, c'est pour cela qu'on fait la proposition de dire, pour qu'il y ait accord, il faut que justice soit rendue.
C'est vrai que Anne Loto est du gouvernement, Madame la ministre, mais elle n'est pas venue intervenir en tant qu'envoyée du gouvernement. Elle a intervenu en tant que fille de la région. Elle veut que la paix revienne totalement les deux populations, mais elle n'est pas venue en tant qu'envoyée du gouvernement. Donc pour moi, jusqu'à présent, en tout cas, l'État n'a encore pas pris de décision.
Et comment vous l'expliquez ça? Est-ce qu'il y a des intérêts supérieurs selon vous?
Forcément. Parce que même quand vous vous écoutez Prince vous parler, tu sais qu'il n'est même pas ébranlé, même pas à cette histoire de forêt classée.
Donc Prince, c'est le chef baoulé.
Prince, c'est le chef baoulé. C'est celui-même qui a tout engendré. C'est celui par qui tout est né aujourd'hui. C'est celui-là. Quand il vous parle, tu sais que le monsieur André, il a un manteau en fer qu'il porte. Il ne se sent même pas ébranlé par la situation. Il n'a ni peur du gouvernement, ni peur même des riverains qui sont tuteurs. Il ne parle pas de ça. Sinon, pour un individu, quand même, qui se retrouve avec des armes, qui fait plusieurs fronts, qui est toujours armé, allez comprendre. Il y a une main occulte quelque part qui est en train d'embrouiller la zone.
En fait, la situation aujourd'hui, c'est que les guerriers crient vraiment à l'injustice. Du fait que le gouvernement, en tout cas, est dans l'incapacité, en tout cas, de faire parler les textes de loi. Je vais vous raconter une histoire qui a créé le déclic, qui a fait qu'aujourd'hui, les guerriers, par exemple, ont commencé à revendiquer. En 2014, on était à un atelier organisé par une grande ONG de la place, quand un juge d'instruction a proposé au commandant de l'assaut des forts d'alors, colonel Fettet, c'est l'assaut des forts qui est en charge de la gestion des forêts classées du pays, de la Côte d'Ivoire. Elle en charge 231 forêts. Le juge d'instruction lui a fait une proposition. Il dit, vous dites que la forêt est infiltrée à près de 95%. Vous voulez déguepir les gens. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique du gouvernement de vouloir déguepir tous ceux qui sont en forêt classée? Je vais vous donner une stratégie que vous devez employer. Comme ça, on verra si le gouvernement a vraiment envie que la forêt classée du Gouindébé soit libérée. Intenter un procès à tous les grands planteurs de la forêt classée du Gouindébé. Et donc, colonel Fettet a pris acte et l'entreprise et recensé tous les grands planteurs de la forêt classée du Gouindébé. Il avait au total 52 planteurs. Parmi ces 52-là, il y avait 45 baoulés. Le premier procès a eu lieu, il a été reporté. Ils ont envoyé 3 avocats. Le deuxième procès a été reporté. Avant d'arriver au troisième procès, le commandant de l'unité de gestion de l'assaut des forts qui est chargé de Gouindébé a été muté. Et depuis qu'il est parti, il n'y a plus de procès. En tout cas, l'affaire est restée en suspens. Et donc, on comprend aisément que les gens n'ont pas... effectivement, il n'y a pas de volonté politique pour libérer la forêt classée du Gouindébé.
Tout le monde sait qu'ils sont dans cette forêt classée, mais personne n'a daigné les mettre dehors. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le président Houphouët-Boigny
en passant par le président Bédier, le président Guy Robert, le président Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui au président Alassane Ouattara, ils n'ont jamais été inquiétés. On s'est dit quoi? C'est l'État qui est le propriétaire de cette forêt. Comme elle est forêt classée, donc elle appartient à l'État, il revient donc à l'État de la surveiller, de la protéger. Et si l'État ne le fait pas, nous, il ne revient pas aux populations autochtones de le faire.
Le président Henri Konan Bédier a la majeure partie de ses fioles ici. Ils sont de Daoukro.
Daoukro, c'est le village de Henri Konan Bédier. Mais c'est à région centre-est, hein, c'est à l'opposé d'ici.
Voilà. Et la majeure partie de ceux qui sont dans cette forêt classée-là, dans les 133 000 hectares-là, sur 100 baoulés, tu peux compter 80 baoulés de Daoukro. Donc quand tu as un problème avec eux, à tort ou à travers, ils te disent que ce que tu vas faire là, ça va accoucher d'une souris. Parce qu'on a le président Bédier derrière nous.
Oui, mais Henri Konan Bédier n'est plus président maintenant.
Mais c'est un grand du pays. Il n'est plus président. Mais quand eux, ils te disent, le procès que vous voulez nous intenter là, ça ne va pas aboutir. Effectivement, quand vous intentez le procès, arrive un moment, tu ne sais pas à qui t'adresser, tu vas frapper à toutes les portes se sont fermées. Donc on s'est dit qu'ils ont raison. Voilà.
Aujourd'hui, le constat, c'est que certaines autorités même sont propriétaires de plantations là-bas, paraît-il. Du coup, tout le monde a le dos au mur et pour trouver la solution, c'est difficile. Parce que si toi qui dois décider, toi-même tu es occupant, c'est un peu c'est difficile à résoudre. Voilà ce qui fait que le problème aujourd'hui là, il perdure. Parce que sinon, après, c'est une forêt classée, on déguerpit tout le monde. On met tout le monde dehors et puis on détruit les plantations et puis c'est tout. Où elle est classée, où elle n'est pas classée.
Donc, mais pourquoi on ne le fait pas ça justement, de déguerpir tout le monde?
Si l'État ne le fait pas, peut-être que l'État y a des intérêts. Parce que 133 000 hectares, il y a plus de 1000 hectares de cacao. Et si les 1000 hectares de cacao, ça ne rapporte rien à l'État de Côte d'Ivoire. Si ça rapporte beaucoup à l'État de Côte d'Ivoire, l'État ne peut pas se permettre de détruire. Sinon, en réalité, depuis longtemps, ces plantations seraient détruites. Et puis, on ne parlait plus de cette affaire. Mais si ça a perdu, qu'on ne trouve pas de résolution, c'est que là l'État a un intérêt là-dedans.
Un intérêt dans ce qu'on pourrait appeler le cacao du sang, puisqu'il y a des morts et il y a de la déforestation.
Oui, bon, le cacao du sang, je pense que c'est pas trop juste parce que depuis 2013, les gens y sont, il n'y avait pas de sang. Donc c'est les effets de la crise que notre pays a connue. Voilà.
Les baoulés, c'est vrai, ce sont nos frères, mais quand même, en état djiblo, ils sont quand même étrangers. C'est parce que nous sommes tous ivoiriens, on vit tous à l'aise, mais c'est pas pour cette forêt, ils vont totalement, bêtement tuer les jeunes guerriers. Nous pouvons aujourd'hui enregistrer plus de 12 morts côté Guéré, des blessés aujourd'hui qui se trouvent actuellement à la PISAM sous charge présidentielle. Non, allez-y, comprendre que vraiment les jeunes Guérés sont en train de souffrir et mourir. Aujourd'hui, on veut bien vivre ensemble. Eux aussi, ils n'ont qu'à nous aider à pleurer moins nos parents.
He do it. Ooh, he do it. Yes, he does.
La suite du reportage d'Igor Strauss, ce sera juste après une petite pause musicale. Nous irons dans une autre forêt, la forêt classée de Cavalli, la petite sœur de la forêt du Goindébé. Si la problématique y est un peu différente, le résultat est le même. Une déforestation sans limite qui menace l'existence même de l'une des dernières forêts classées de Côte d'Ivoire.
I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down.
really don't. Ooh, it don't mean, it don't mean good. I guess nobody ever really don't. Oh, it don't mean, it don't mean good.
De l'environnement sur RFI.
Aujourd'hui, les voleurs sont rentrés, ils ont pris tout, sans l'avis de l'État. Ils ont pris toute la forêt classée du Cavali. Nous, les guérés, nous n'avons pas accès à cette forêt classée du Cavali. Si le guéré met ses pieds là-bas, c'est un cadavre, ses parents n'ont plus le retrouver.
Quand tu viens travailler dans une forêt, normalement, tu viens sans âme, dans le but de chercher quelque chose à manger. Ça, au moins, on peut comprendre. Mais pour des gens qui viennent s'installer avec des âmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Donc nous ne pouvons pas accepter que les rebelles soient réfugiés dans notre forêt, dans une forêt classée. C'est pas normal. C'est pas normal.
C'est la dernière forêt primaire autour du parc national de Taï. Et vous voyez, la position de la forêt classée du Cavali, elle est stratégique. C'est en même temps une zone de ressources synergétiques pour les populations riveraines. Mais imaginez-vous un peu qu'à cause de la cacaoculture sauvage, cette forêt disparaît. Mais ce serait la catastrophe pour toute la zone.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Guiglo, près de la frontière avec le Libéria. Après avoir abordé les menaces qui pèsent sur la forêt classée du Guindébé, nous voici dans une autre forêt classée de la région, celle du Cavali. Si le contexte est différent de celui de la forêt du Guindébé, le résultat est le même. Déforestation anarchique, pollution, accaparement des terres classées. Guindébé et Cavali, un cacao au goût amer. Voici la suite du reportage d'Igor Strauss.
Je suis Thierry Fidèle, riverain de la forêt classée du Cavali. Il faut dire que la forêt classée du Cavali, c'est une forêt qui fait 67 000 hectares. Et la forêt était conservée, bien conservée, jusqu'à la crise post-électorale de 2011. Donc quand la crise post-électorale a éclaté, il y avait des vagues successives de Burkinabés qui rentraient, qui venaient, ils venaient dans des cars, des convois de cars. Par jour, on pouvait remarquer qu'il y avait au moins 10 cars qui traversaient nos villages. Ils allaient se retrouver en forêt classée du Cavali. Et comme à cette période, en tout cas, personne ne pouvait parler, aucun autochtone guéri ne pouvait se lever pour parler, puisque ceux qui faisaient ces convois-là, ceux qui convoyaient ces cars-là, c'était des chefs de guerre. Ils ont combattu tous aux côtés du MPCI. Donc les gens avaient peur. À partir de 2013, quand on a senti que la situation était calme, le désarmement avait quand même débuté, et que les institutions ont commencé, les préfets, sous-préfets ont commencé à s'installer progressivement. Nous, les jeunes, on s'est organisés. Et d'abord, dans un premier temps, on allait voir le préfet pour lui dire non, que vraiment, trop, c'est trop. Et là, nous, on n'est pas d'accord. Voilà le combat qu'on a commencé à mener. Donc, les populations ont peur que le Cavali ne subisse le même sort que la forêt classée du Guindébé, qui n'existe plus. Donc, nous, on n'est pas qu'il y ait des crises à n'en point finir. On demande à l'État, purement et simplement, de protéger ces forêts-là. C'est une protection sûre et puis de façon systématique et puis radicale. Il faut que ces forêts-là, on expulse tous ceux qui sont dans ces forêts-là.
Moi, c'est Komodé Jean-Marc et Koga de la WCF. C'est la Fondation pour les chiens pendés sauvages. Bon, au fait, nous, étant Koga, nous, notre rôle dans la forêt classée du Cavali, c'est de collecter les données sur les activités anthropiques et les données sur les indices de présence des animaux, tels que les chimpanzés, les hippopotames pygmées et bien d'autres. Nous sommes inquiets pour la forêt du Kavali, puisque d'ici 6 mois, si rien n'est fait, cette forêt, on va la perdre.
Pourquoi d'ici 6 mois? C'est très rapide, 6 mois, c'est demain.
Ah, mais c'est ça. Puisque, bon, ces défricheurs-là, vraiment, c'est de véritables machines. Ils défrichent de jour comme de nuit. Voilà. Si rien n'est fait maintenant, je vous dis que d'ici 6 mois, il ne va rien rester. Donc, si on doit sauver Kavali, c'est maintenant.
Est-ce que les autorités en ont conscience, ça?
Bon, les autorités en ont conscience. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, puisque je ne sais pas.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors?
Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est en premier lieu le déguépissement total de cette forêt-là. D'abord, il faut la déguerpir maintenant.
Quand on parle de déguerpissement, on parle de combien de personnes?
Bon, le nombre de ces gens qui ont investi la forêt, bon, le nombre est difficile à déterminer, puisque c'est des gens, ils sont sur le qui-vive.
Mais approximativement, est-ce qu'on a une idée?
Bon, approximativement, on peut avoir 1000 âmes, hein, 1000 âmes à 1500 âmes. Mais c'est des gens qui n'ont pas de campement en tant qu'étel dans la forêt. Ils vivent comme des clandestins. Quand ils voient l'assaut de force approcher, ils commencent à courir, quoi. Voilà. Il faut que l'État se mette au travail maintenant pour déguerpir cette forêt-là. Sinon, on ne parlera même plus du parc national de Taï. Si cette forêt est partie, je vous dis que le parc sera atteint.
Je suis Biéou Valérie, jeune riverain du parc national de Taï et de la forêt classée du Kavali. Je suis originaire donc de Taï, plus précisément du village de Daobli, village proche de la forêt classée du Kavali. Alors, je voudrais raconter un peu le drame que subit la forêt classée du Kavali actuellement. Il faut dire que la flore est victime, bien sûr, d'une destruction sans nom. Et ces infiltrés, donc clandestins, utilisent des méthodes qui auront à coup sûr un impact tant sur la biodiversité que sur même le sol, parce qu'ils utilisent des produits chimiques pour détruire les arbres. Ils font des entailles dans les écorces des arbres et ils y mettent ces produits chimiques qui font sécher ces arbres en moins de 3 voire 4 jours. Et ce sont des milliers d'arbres qu'ils détruisent au jour le jour, et ils le font avec ces produits chimiques pour ne pas attirer l'attention, bien sûr, des autorités à charge de la protection de cette forêt. S'ils utilisent du feu, la fumée va alerter. S'ils utilisent également des tronçonneuses, et le bruit de ces tronçonneuses va alerter, bien sûr. Donc ils utilisent ces produits chimiques qui d'abord détruisent presque tous les arbres, mais également auront à coup sûr un impact sur le sol et même sur la faune. Et le comble, c'est que ma visite dans cette forêt en 2016, bien sûr, m'a laissé un goût très amer de la situation, des animaux surtout, parce que comme vous le voyez, si vous prenez la carte de la région du Kavali, c'était avant, il y a moins de 25 ans, un massif forestier qui s'étendait à perte de vue entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Libéria. Mais malheureusement, l'agriculture effrénée a scellé, bien sûr, un morcellement de cet espace jadis verdoyant. Et aujourd'hui, le Kavali, la forêt classée du Kavali, est, je peux dire, la dernière zone refuge de ces animaux, du terroir villageois, bien sûr, qui ont été chassés, bien sûr, par l'avancée, bien sûr, des agriculteurs. Mais mon constat sur le terrain, c'est qu'il y a encore de la vie animale dans cette forêt. Il y a des hippopotames nés, des chimpanzés, des singes de toutes sortes, des buffles sauvages. Nous n'avons pas à détruire tout cet habitat, rien que pour du cacao, rien que pour du chocolat.
Plusieurs chefs de guerre opèrent dans la forêt classée du Kavali. Le plus connu d'entre eux, Tongodo, a été arrêté par la SODEFOR, la Société de Développement des Forêts, avant d'être relâché par la justice pour manque de preuves. De nouveau en liberté, il fait régner la terreur avec l'un de ses lieutenants surnommé Lasso. Vente illégale de parcelles de forêt, racket des ouvriers travaillant dans les plantations, travail forcé et vol avec violence font partie de ses faits d'armes.
Je m'appelle Ouedraogo Félix. C'est depuis l'année passée que les gens de Tongodo sont venus nous agresser en forêt de Cavali. Ok, on est venu en forêt de Cavali en 2010, au temps de la guerre, on a profité venu. C'est au niveau de 2013 que les sauts de force sont venus dire non, quitter dans la forêt là, parce que c'est forêt classée. Maintenant, après ça, nous aussi, bon, on a essayé de... Comme tout le monde sont dedans, on n'a pas pu sortir. Donc, mais on n'a pas pu couper encore ce qu'on avait planté, on a resté sur ça. Donc maintenant, 2016, on voit un groupe qui sont venus dire non, vous devez quitter dans vos plantations.
C'était qui ce groupe?
C'est le groupe de Tongodo. Ce n'est pas Guéry qui nous a cherché sur les champs. C'est nos frères même Burkinabé qui vient parler à Moré, qui quitter dans ces lieux. Et maintenant, nos plantations qui produisent aujourd'hui qu'on cueille, on nous a cherché de notre champ. J'ai cueilli tout, ramassé mon cacao. J'ai en train de lutter pour ça. Mais l'année passée, quand je suis venu, il a envoyé ses éléments, ils sont venus m'attraper, frapper, bafouiller, prendre tout ce que j'avais, moto, téléphone, l'argent, clé de ma maison, même me déshabiller, prendre les bracelets, tout. Cette affaire-là, je suis parti chez le chef du village. Il dit, ah, affaire-là, où ça va là? C'est un peu compliqué. Je suis rentré à la gendarmerie à Taï. Le chef de brigade, j'ai expliqué. Il nous a donné des convocations. Que si je les connais, d'aller les remettre. Je suis parti les remettre. Ils ont refusé de prendre les convocations. Donc, je suis revenu à la maison. Plus de 2 jours, on m'a appelé dans une poste de Gidbaï. Que de venir là-bas, que la moto est là. Mes téléphones sont là. Que de venir prendre les trucs qui sont confisqués. J'ai dit, ah, mais les gars qui t'ont envoyé ma moto et mes trucs là, toi-même, tu ne peux pas les prendre. Les gens qui sont venus, les physiques, et je vous ai tout expliqué. Et ils sont capables aussi de venir remettre les trucs à un gendarme. Et puis, ils sont repartis. Et puis, vous m'appelez de venir chercher. Comment ça se passe?
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
La technique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La technique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Quand ils sont allés porter l'affaire à la gendarmerie, 2 jours après, la gendarmerie est rentrée en négociation avec la bande armée. Donc la gendarmerie a récupéré les motos. Quand les gendarmes sont allés prendre tout ça, là, ils n'ont pas arrêté ceux qui ont commis ces exactions-là. C'est comme ça que nous, on allait rencontrer le commandant de brigade de la gendarmerie de Taï pour essayer d'en parler. Il nous a même chassé, littéralement chassé même de la brigade. On allait voir le préfet pour poser le problème au préfet. Le préfet, séance tenant devant nous, le préfet l'a appelé pour lui dire, mais reçois la plainte des ONG. Il ne faut pas donner l'impression que tout le monde est corrompu par cette bande armée-là dans la région. On est retourné, il n'a pas voulu recevoir la plainte. Donc on a décidé de faire des courriers au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, pour décrier tout ce qui s'est passé. Donc Dieu merci, il y a une réaction. Les gens, en tout cas au niveau du commandement supérieur de la gendarmerie, on a été reçus, en tout cas on nous a bien reçus, et ils ont dit qu'ils allaient diligenter une enquête. Et puis l'enquête a été diligentée par le capitaine de la compagnie de Guiglo, qui est venu, qui a diligenté l'enquête dans tous les villages, là, vu des victimes, rencontré les chefs du village, rencontré les présidents des jeunes, et lui aussi qui a fait un rapport. Et le commandant de brigade de la compagnie de Taï a été effectivement mis aux arrêts pour complicité, collaboration avec une bande armée. Donc il y a un nouveau commandant de brigade qui est arrivé. Et il a dit, en tout cas, à partir de maintenant, il est venu pour travailler pour les populations. Et ce que l'autre n'a pas fait, l'autre, en 4 ans, il n'a pas pu arrêter un seul élément de la bande armée. Mais le nouveau qui est arrivé là, en 3 mois, il a arrêté 6 éléments de la bande armée qui ont été déférés et qui sont actuellement en instruction. Donc au moins, on a senti des signes. Et en tout cas, il nous a dit, il va nous aider à démanteler la bande pour que vraiment la sécurité, la tranquillité reviennent dans le département.
C'est vrai, nous avons été menacés au départ, par les infiltrés surtout. Celui qui est beaucoup cité, à savoir ce Tongodo. Tongodo qui est d'origine burkinabé, qui a fait fortune dans la vente donc, de cette forêt. Au départ, lorsque nous avons engagé ce combat, par personne interposée, il a essayé de nous intimider, de nous menacer. Et la première action que nous avons menée aux côtés de l'assaut des forts a été d'aider l'assaut des forts à le capturer. Mais malheureusement, les décisions de justice n'ont pas été de notre goût. Puisque un tel bandit des grands chemins, dont les exactions sur la forêt et dans la forêt, bien sûr, sont avérées, a été relâché, bien sûr, par la justice, et selon elle, bien sûr, pour insuffisance des preuves. Il a continué, il continue toujours à mener ses actions dans la forêt, mais cette fois-ci, il s'est retranché, selon les informations qui nous reviennent du côté des mains. Mais il a ses lieutenants qui sont sur le terrain, qui mènent des actions dans la forêt, qui rançonnent les populations qu'ils ont eux-mêmes installées dans cette forêt. Parce que selon les informations en nos possessions, ils détiendraient dans cette forêt plus de 1 km carré de cacaoyers, dans laquelle, bien sûr, tous les paysans qu'il a installés de façon illégale de la forêt classée du Cavali doivent absolument et impérativement travailler comme du servage pour lui. Et souvent, ça vire au drame. Il y a des crimes qui sont passés sous silence. Il y a des exactions qui sont passées sous silence. Et ce, bien sûr, au grand désarroi des populations riveraines.
C'est pas du vent sur RFI.
Dédicace à toutes les mamans de l'Afrique. Que l'Afrique soit un continent béni par Dieu. Que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. En tirant la hache de guerre, donnons-nous les mains pour construire l'éléphant d'Afrique de demain. Cheikh Tepu Traoré.
Moi, mon nom c'est Monsieur Kabore Edmond de Simoshi, Burkinabé. Il y avait mon frère dans la forêt classée. Les gars de l'assaut, ils ont leur groupe dans la forêt. Ils sont avec fusil. Donc, ils ont attrapé mon petit frère. Bon, depuis le 26, le mois passé.
Donc, et là, subitement, il a disparu.
Oui, il a disparu.
Vous n'avez aucune nouvelle?
Non, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Ils ont trouvé 4 personnes dans hangar là. Donc maintenant, ils ont commencé à les frapper. Donc les deux là, ils ont fui. Et ils sont fui. Et puis ils ont laissé le deux là. Donc c'est là, ils ont parté avec le deux là.
Donc les deux qui ont fui, c'est votre frère et quelqu'un d'autre, c'est ça?
Oui, oui. Quelqu'un d'autre là, lui, c'est Bazango Pierre. Voilà, donc mon frère là, c'est Kabore Julie Zamatis.
Ah, donc il y a 4 Burkinabés qui ont été frappés, dont oui. Votre frère.
Uh-huh.
2 ont cherché à fuir.
Oui, oui.
Et donc, depuis qu'ils ont fui, on n'a plus de nouvelles.
Oui, oui, on n'a plus de nouvelles. Donc, les deux RSC. Mais dans le classé, là, ils sont avec leur groupe. Donc, tu ne peux pas aller là où ils sont pour aller se vérifier. Donc, il faut que tu, toi aussi, tu amènes les enquêtes un peu. Et puis, on sait. Mais nous, on voulait, si on l'avait attrapé, les lasso, s'il est arrivé à Gendarmerie, il va expliquer là où ça se trouve, les enfants. S'ils ont tué ou pas.
Dans la région du Cavali, en majorité, aujourd'hui, là, nous, c'est l'évéaculture, le cacao, tout le cacao qu'on trouve là, la plupart du cacao qu'on trouve, à 80%, ils sont des forêts classées, que ce soit Cavali, que ce soit Gouin-Libé. Nous, on est des petits riverains. Quand on crie, notre parole ne porte pas. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, des films, des grands films de cacao, comme C'est moi, Barry Calvo, Cagil, le cacao qui paye. Il dit qu'ils sont engagés dans des projets de certification. Que le cacao qui paye là ne vient pas. Mais c'est une injure à notre endroit, nous qui sommes les riverains, nous qui vivons ce quotidien là. C'est une injure à notre endroit. On est là et on les voit à longueur de journée. Tout le cacao qui paye là, il sort de la forêt classée du Gouin-Libé, il sort de la forêt classée du Cavali. Quand les films là disent non, qu'on a des projets, ils tiennent des grands discours, hein, on a des projets de certification. On fait la certification, on a des millions, des centaines, 600 millions qu'on a injecté à telle coopérative pour faire la certification. On a injecté 500 millions ici pour faire la certification. C'est faux. C'est du mensonge, c'est du banditisme. Nous, on le dit, hein, tous ces grands films-là, il n'y a pas une seule film, un seul grand producteur de cacao qui ne prend pas le cacao en forêt classée du Cavali. Et ça, toutes les autorités administratives le savent. toutes nos autorités politiques le savent. J'ai une fois une rencontre, la dernière rencontre où le ministre était là, les députés, tout le monde était là. J'ai posé la question aux éléments de l'assaut des forts et puis au capitaine des eaux et forêts qui était là. Je lui ai demandé s'il a une fois appréhendé ne serait-ce qu'un seul camion qui sortait de la forêt classée du Gouin-Libé pour dire vous sortez, c'est une aire protégée, vous n'avez pas le droit d'aller prendre le cacao là-bas pour partir le vent. Est-ce qu'ils ont une fois interpellé un véhicule? Jamais. Est-ce que l'assaut des forts a une fois interpellé un véhicule sous prétexte qu'il sort des 35 tonnes qui est chargé de cacao qui sort de la forêt de Clavali? Jamais. On n'en a jamais vu dans la zone. Donc en fait, je voulais souligner ce volet-là pour que les gens sachent, pour que ces films-là, même s'ils n'ont pas les informations, ils ne savent pas la vérité, peut-être qu'ils n'ont pas les informations juste parce que peut-être ils ne viennent pas sur le terrain. Il faut que ces grands films-là sachent que le cacao, que le français, que le citoyen français consomme là, c'est du cacao issu de la déforestation. Et c'est ce chocolat-là que quand on regarde à la télé, les gens présentent comme du chocolat sain, du chocolat, c'est du chocolat de la déforestation. C'est du chocolat du sang de certains Ivoiriens.
Je suis Yaya Octave, cadre de la région de Kabali.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette forêt? Que faut-il faire pour enrayer la déforestation?
Oui, il faut rapidement agir. Il faut agir, il faut que l'État...
Mais en faisant quoi?
Mais en mettant ceux qui sont actuellement là-dedans, il faut les mettre dehors rapidement.
On parle de bande armée assez violente quand même.
Mais bande armée, c'est un État. Et c'est pas une armée en Côte d'Ivoire. Une bande armée peut faire quoi devant l'armée nationale? Il faut que les gens prennent des mesures. Si on a la volonté vraiment de protéger cette forêt, il faut rapidement mettre ceux qui sont là-dedans dehors.
Mais un des chefs de guerre, justement, avait été arrêté. Il a été libéré pour faute de preuves. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un chef de guerre arrêté soit relâché pour faute de preuves?
Bon, j'ai pas d'informations par rapport à ça. Je n'ai vraiment pas d'informations, donc je ne peux pas affirmer ça.
Alors, certains me disent que, après la forêt de Kavali, ben les bandes armées, ceux qui s'infiltrent, pourraient s'attaquer aux forêts du Libéria et que ça pourrait compliquer les relations entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
Bon, comme une bande armée ne respecte pas de loi, donc si on occupe la forêt classée de Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont capables aussi d'aller aussi agresser la forêt du Libéria. Donc, et c'est tout à fait normal que le Libéria réagisse. Certains auraient déjà traversé le fleuve Kavali pour aller dans la forêt du Libéria. Et les Libériens ont réagi.
Comment?
Ils ont réagi pour venir les déguepir. Donc ils ont été déguepis.
Est-ce qu'ils en ont voulu aux Ivoiriens de laisser ces gens venant de la Côte d'Ivoire venir au Libéria?
Mais bien sûr. Je pense que cela a été réglé. Les deux gouvernements se sont retrouvés pour que cette situation soit réglée afin que chacun respecte vraiment les frontières et tout ça. Et puis pour la sécurité de chaque État, il y a eu des rencontres ici à Diglo. Les chefs traditionnels étaient associés à ces rencontres pour prendre des mesures pour protéger chaque État, pour qu'on puisse freiner ce fléau. Donc ça a été arrêté. Vous savez, un problème de terre, ça peut générer beaucoup de choses. Ça peut provoquer beaucoup de choses. Le problème de terre est un problème très important. Mais si on y prend garde, qu'on ne cherche pas vraiment les solutions rapides, ça peut engendrer tout cela.
Nous demandons à l'État de prendre la décision de changer le statut de cette forêt pour en faire une réserve, voire un parc.
Mais l'État a déjà du mal à réserver une forêt classée. Oui. On peut imaginer que ce sera encore plus difficile de préserver un parc ou une réserve.
Parce que simplement, je vous donne l'exemple, le cas de la forêt de Taï. En son temps également, cette forêt était infiltrée par des Burkinabés, même des Baoulés. Et il y avait des grandes plantations dans la forêt de Taï. Mais il a fallu une décision courageuse, étatique, de les déguerpir. Et c'est ce déguerpissement des années entre 85 et plus qui ont permis aujourd'hui de sauver cette forêt et qui fait la fierté du monde entier. Le problème de la déforestation, le problème du changement climatique qui suit cette déforestation est un problème mondial. Et je crois que notre nation, la Côte d'Ivoire, a été l'une des premières nations signataires, bien sûr, de la COP21 à Paris. Et ce serait un signe fort
un engagement fort pour l'État de Côte d'Ivoire de prendre la décision qui s'impose aujourd'hui, à l'heure actuelle, de changer le statut de cette dernière forêt primaire autour du parc national de Taï, l'ériger en réserve, voire en parc, pour le bien-être de l'humanité.
Pour les autorités ivoiriennes, confrontées au ras-le-bol des populations de la région de Guiglo, il est donc temps d'agir. Mais comment? Comment concilier sauvegarde de la forêt et développement économique avec la culture de cacao? Lors de la COP23 en Allemagne, le ministre des Eaux et Forêts, Don Wai, a présenté les grandes lignes de la nouvelle politique de préservation et de réhabilitation des forêts en Côte d'Ivoire. Certaines propositions de cette nouvelle politique en cours d'élaboration ont été bien acceptées par l'ensemble des acteurs. La volonté de rétablir l'ordre dans les zones sujettes à conflit, de surclasser la forêt du Cavali en aire protégée et de rendre plus performante la SODEFOR, la Société de Développement des Forêts, sont les points positifs de ce nouveau texte de loi. D'autres points, en revanche, ne font pas l'unanimité, comme la création d'un nouveau statut d'agroforêt classée, qui est perçu par certaines ONG comme une conversion des forêts classées en plantation de cacao à grande échelle. De plus, selon les observateurs, si le secteur privé qui sera en charge de ces agroforêts classées n'a pas de mandat clair et les moyens réels de les surveiller, la déforestation pourrait reprendre de plus belle et porter un coup fatal au couvert forestier ivoirien.
Merci à Igor Strauss pour ce reportage réalisé par François Porcheron. Pour réagir, vous pouvez nous écrire à c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux #c'estpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.